tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Auditeur de Tranche de Vie, le hasard m'a fait rencontrer aujourd'hui deux touristes qui visitaient le Périgord. Il s'agit de Luce et de Christian. Et la rencontre s'est prolongée, j'ai pu les interroger sur leur vie, et puis bien entendu je leur demanderai s'ils aiment le Périgord et ce qu'ils y ont vu. Luce, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène dans le Périgord ?
Alors, si je me suis arrêtée quelques jours dans le Périgord, c'est parce que j'ai un frère qui y habite. Et à chaque fois que je passais à Périgueux, c'était toujours un coup de vent. On s'arrêtait, on dînait et on repartait le lendemain pour aller voir mes parents qui habitent en Charente, maritime. Et moi, j'habite à Lyon. Voilà, donc Périgord, pour moi, c'était resté un secret. J'entendais beaucoup parler du Périgord, mais je n'en connaissais rien. Donc on a décidé cette année de rester quelques jours et de visiter, de faire les visiteurs, les touristes, comme l'ont fait beaucoup de touristes ces jours-ci. Nous avons visité quelques très beaux sites, notamment Dôme, Fanlac, Dôme, Les Aisies, puis encore d'autres là où il y a le grand château, mais j'ai oublié le...
Voilà, dans les châteaux, vous savez, il paraît qu'il y en a mille.
Paquet, oui. sur une hauteur là, le grand...
Bénac.
On n'a pas pu s'y arrêter parce qu'il y avait trop de voitures et aucun parking libre. Vraiment eu beaucoup de bonheur à visiter cette région que je voulais voir depuis fort longtemps.
Vous avez parlé de Lyon, vous êtes originaire de Lyon, non, vous êtes originaire de la Charente ?
Charente, oui. Je suis originaire de Charente-Maritime. Et sur le plan professionnel, j'ai été amenée à aller travailler à Lyon. J'y vis et j'y suis très heureuse, car c'est une ville qui correspond à ce que j'aime faire, c'est-à-dire tout ce qui est culturel, musique, opéra, théâtre, et puis ma profession qui m'y a amenée. Donc j'ai beaucoup de bonheur de vivre à Lyon, c'est une très belle ville.
Alors, on va revenir sur votre ancienne profession et sur vos activités actuelles, mais on va se tourner maintenant vers Christian et lui demander, lui aussi, de nous dire un petit peu de se situer et de nous dire s'il a apprécié le Périgord, bien sûr, et probablement, puisqu'il l'a visité avec vous, et puis de nous dire un petit peu ce qu'il a fait, où il vit, d'où il est originaire.
Alors, moi, je suis originaire de Lille. J'habite maintenant à Lyon, où j'ai rencontré Luce. Donc depuis, on visite ensemble. J'étais déjà venu quand j'étais enfant avec mes parents qui étaient enseignants et déjà visité Périgueux.
Et vous, quelle était votre profession alors ?
Alors moi, j'étais ingénieur. Enfin, j'ai eu une profession un peu chaotique parce que j'ai commencé des études de médecine. Et puis comme ça ne me plaisait pas, j'ai arrêté en troisième année. De médecine, et j'ai fait le conservatoire des arts et métiers, et donc voilà, j'ai passé ma carrière professionnelle comme ingénieur.
On va parler après de vos activités actuelles. Luce, vous pouvez nous dire quelle était votre profession, ou quelles ont été vos professions, si vous en avez, si vous avez démarré dans plusieurs directions comme Christian, ou si vous...
Moi, j'ai toujours, depuis l'âge de 5 ans, je voulais être maîtresse d'école, donc j'ai forcément continué mes études, et puis j'ai eu le bonheur d'être reçue à l'école normale d'instituteur. Je suis devenue institutrice, et puis j'ai repris des études universitaires pour avoir un DEA, pour devenir formateur d'enseignants. Donc j'étais formatrice d'enseignants à l'IUFM de Lyon. D'accord. Ma carrière a évolué dans ce sens, mais j'ai enseigné 41 ans.
Si je peux me permettre, Christian. Luce a oublié de dire qu'on en a un point commun, parce qu'elle a aussi tenté de faire des études de médecine. Bon, elle l'a arrêté pour des raisons, voilà, pour se marier. Mais donc c'est un point commun entre nous. Elle a été jusqu'en deuxième année de médecine. Donc, un petit point commun entre nous.
Non, mais ça c'est vraiment original. Hein, très bien. Vous avez un itinéraire professionnel de formation très original. Alors, à quoi occupez-vous votre retraite?
Alors ma retraite, j'ai eu beaucoup de mal à partir à la retraite, ça a été un choc. Mon médecin de famille m'a dit, il faut pas arrêter brutalement, il faut continuer. Donc j'ai continué bénévolement à donner des cours à des enfants handicapés. Et j'en ai gardé un, ça fait 6 ans que je suis un petit garçon handicapé. Et puis j'ai donné aussi beaucoup mon temps à la musique. Donc je suis bénévole dans des grands festivals, comme le Festival de Saintes, ensuite le Festival de la Chaise-Dieu et le Festival d'Ambronay. Voilà, donc là, je suis à l'accueil des musiciens et au transport des musiciens. Voilà, donc j'ai rencontré depuis 20 ans tous les grands noms de la musique classique.
Vous jouez d'un instrument ou de plusieurs instruments?
Non, je ne joue pas, mais je suis mélomane, donc j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup l'opéra. Donc à Lyon, on a tout ce qu'il faut aussi. On va assez souvent aussi en Allemagne pour écouter les opéras. Et puis en profiter pour faire des voyages culturels et sportifs.
On va revenir maintenant vers Christian, avant de revenir vers le sport. Christian, est-ce que vous êtes mélomane vous aussi? Est-ce que vous vous associez aux déplacements de Luce pour aller dans les grands festivals comme la Chaise-Dieu et...
Alors depuis qu'on se connaît, oui, elle m'a entraîné dans les festivals, donc je suis aussi bénévole dans ces festivals. J'étais mélomane avant, mais bon, je n'étais pas bénévole, j'avais d'autres occupations et...
Instrumentiste aussi, vous avez joué d'un instrument? Vous savez que vous me faites beaucoup plaisir, parce que moi qui suis un illettré musical, mais qui aime la musique, j'ai toujours souffert de ne jamais avoir joué d'un instrument, appris à jouer d'un instrument. Je considère ça comme presque une infirmité, alors je constate qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, et ça me fait plutôt plaisir. En dehors de... Alors, Luce, vous avez parlé de votre action sociale. Vous, Christian, est-ce que vous avez aussi ce type d'activité?
Alors, non, je n'enseigne pas. Enfin, j'ai enseigné dans ma jeunesse, mais un peu. Enfin, j'ai fait un peu de formation informatique. J'ai aussi enseigné un peu aux arts et métiers. Et non, actuellement, depuis que je suis en retraite, je me suis investi un peu plus dans une association qui s'occupe de 2 orphelinats au Togo, 190 enfants. Je suis le trésorier de cette association internationale.
Alors là, avec une retenue admirable, vous dites que vous êtes un petit peu impliqué. Ben, c'est quand même beaucoup, ça, quand même.
Oui, enfin oui, ça, on prend un peu de temps. On tient à cœur de pouvoir bien élever ces enfants, donc déjà de les sauver
de la misère,
de leur donner un toit, de leur donner à manger, et puis aussi une éducation. Donc on les garde, ce sont des enfants qu'on n'adopte pas, parce qu'on veut qu'ils restent sur place, qu'ils soient là pour pouvoir développer leur pays. C'est un peu l'Afrique, c'est un peu compliqué, mais ce qu'ils puissent...
Mais certains sont déjà d'ailleurs à l'université, il faut dire
oui,
ça.
Oui, d'avoir une vie presque normale.
On les garde au moins jusque 18 ans, sinon on les garde pour ceux qui arrivent à rentrer en université. On en a maintenant qui sont à l'université, on a quelqu'un qui fait du droit, un autre qui fait études commerciales, oui. Un autre qui se lance dans les études d'ingénieur civil, qui est très très bien au Togo, ce qui leur donne pas forcément un meilleur espoir de gagner correctement leur vie, parce que mieux vaut être artisan au Togo, et ça on a quand même aussi pas mal d'orphelins qui se lancent dans les métiers manuels.
Cette association, elle est financée comment alors?
Elle est uniquement financée par les 500 donateurs qu'on a, donc qui s'engagent à parrainer les enfants jusque leur vie. Le coût est à peu près l'équivalent de 80 euros par mois, par enfant. Et sur ces 80 euros, on met 10 euros de côté, de façon à ce qu'ils aient un pécule. Quand ils rentreront dans la vie active, parce que c'est quand même très cher au Togo de pouvoir se loger, et également très cher s'ils veulent de pouvoir s'installer, parce qu'en fait, il y a très très peu de salariés, même quand on travaille pour quelqu'un, il faut venir avec ses outils, donc voilà, il faut du matériel, donc on les aide aussi.
Quand ils quittent le nid, ils ont quand même assuré d'avoir une petite sécurité.
Une petite sécurité.
Ce travail, vous y participez, Luce, ou vous avez accompagné Christian dans des déplacements au Togo sur ces orphelinats?
On peut aussi apporter du matériel, des livres, des crayons, des outils pour travailler, puis aider aussi les enseignants là-bas sur place. Et là, c'est vraiment passionnant. Mais moi, j'ai découvert l'Afrique noire cette année, enfin non, l'an dernier. Et je suis, comment dire, enthousiaste et étonnée de voir que cette association, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut entendre autour de nous, tout l'argent est absolument investi directement dans ces lieux qui sont étonnants quand on voit l'Afrique. Quand on voit le Palimé ou Lomé, quand on voit certains quartiers où il y a une misère pas possible, et quand on voit ces petits orphelins souriants et heureux de vivre dans ces lieux qui ont été construits et qui sont d'une propreté, d'une beauté, c'est extraordinaire. C'est un beau travail.
Donc là, cette année, ou l'année dernière, vous êtes allé au Togo pour la première. Christian, pour vous, c'était aussi un premier contact avec l'Afrique, le Togo ?
Non. Ça fait une dizaine d'années que j'y vais régulièrement, oui. Tous les ans, en général, en février.
Mais toujours au Togo ?
Mais toujours au Togo. Oui, parce que...
Et pourquoi le Togo ? C'est le hasard qui a fait ça ou...
Alors, ça n'est pas tout à fait le hasard, parce que les fondateurs avaient passé pas mal de temps, enfin même leur jeunesse en Afrique, donc ils connaissaient bien l'Afrique de l'Ouest. Et quand ils ont fondé ça, ils voulaient aussi un pays approprié politiquement stable, si on peut parler d'un pays stable en Afrique.
Et plutôt
francophone. Comme ils avaient des relations au Togo, bon, ça s'est fait au Togo. Ça sera le 20e anniversaire en 2021. Et là, actuellement, on commence à penser à peut-être à fonder d'autres orphelinats dans d'autres pays africains, mais toujours africains.
Et toujours francophone ?
Non, là on pense...
Parce que votre association, c'est une association française ou internationale ?
C'est une association internationale. Oui, le sigle, c'est SPES, comme espoir
en latin.
Et puis c'est la sauvegarde pour l'enfance en souffrance. Et on a des donateurs américains, australiens, voilà, c'est vraiment complètement international. Beaucoup d'Islandais aussi, qui ont apporté beaucoup d'argent, notamment pour les constructions des orphelinats, parce qu'à l'époque, les Islandais étaient relativement riches. Et donc maintenant, on pense soit le Bénin, soit le Ghana.
Le Ghana.
Qui est anglophone.
Qui est aussi un pays séduisant. Aussi séduisant
que le Togo. Qui est un peu plus riche, parce que le Togo est un des pays les plus pauvres du monde.
Qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette attitude pleine d'espérance vis-à-vis de l'Afrique, quand vous voyez... Ces jeunes gens, quand vous voyez l'esprit d'initiative qui anime une partie de la jeunesse togolaise et africaine, alors qu'on raconte toutes sortes d'histoires qui sont malheureusement très souvent avérées sur le comportement des gouvernements de ces pays. Est-ce que vous pensez que ce sont des pays qui peuvent évoluer favorablement ?
Moi, je le souhaite vraiment, parce que j'ai rencontré des très belles personnes sur le marché, des gens qui spontanément viennent nous voir, nous parlent. Et ce sont des pays qui ont le sourire. Et ça, je trouve ça étonnant. Ils n'ont rien, mais ils ont le sourire et ils nous donnent. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner. On a eu plein de fois l'occasion de vérifier que c'était des très belles personnes, tous ces gens-là. Et tout ce qu'on peut faire, moi j'ai vraiment envie de le faire, et je ne regrette pas du tout l'argent que je verse tous les mois, parce que je sais où va cet argent. Je sais que mon petit filleul que je connais, que j'ai rencontré, je sais qu'il a un avenir devant lui. Bon, moi j'en ai un, toi tu en as trois, Christian en a trois, donc on sait déjà que ces enfants-là auront au moins une chance de s'en sortir. Et on le voit bien, je pense que c'est possible. Enfin, moi, j'espère que ces pays-là garderont leur fraîcheur, leur gentillesse, leur ouverture, leur spontanéité, alors qu'on voit tellement de choses horribles chez nous, en France.
Oui, bien sûr, mais on en voit aussi en Afrique. Vous parlez d'un pays, là, où... Les luttes confessionnelles sont pratiquement absentes, enfin oui, sont très atténuées par rapport aux pays du Sahel.
Oui.
Malheureusement, ça ne se passe pas partout aussi facilement. Hein. Effectivement, moi je sais que quand je travaillais au Togo dans les années 70, alors on disait le Togo c'est la Suisse de l'Afrique. Alors le Togo, effectivement, à l'époque il était riche à cause du phosphate, et puis c'était un petit pays avec une petite population, les choses ont bien changé. Votre vision de l'Afrique, est-ce qu'elle est étayée par des rencontres que vous avez faites avec d'autres pays et qui vous ont permis d'estimer un petit peu, de prendre du recul et puis d'estimer le comportement des Africains par rapport au comportement, je parle des Asiatiques ou d'autres pays?
Oui, j'ai eu aussi le bonheur de faire un beau voyage au Vietnam et au Cambodge. Là aussi, j'ai vu des gens merveilleux, souriants, des gens ouverts, des gens... des belles personnes au Vietnam. Alors, pour quand on connaît leur histoire et quand on voit encore les traces des guerres qui ont ravagé ces pays et qu'on les voit quand même souriants et tournés vers l'avenir, moi, ça m'interroge. Je me dis, mais nous, on a vécu des choses merveilleuses. On vit dans un pays fantastique. Et ces gens-là, ils ont connu, surtout au Cambodge, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment bouleversée, frappée, et je vois l'espoir dans les yeux et le sourire de tous ces jeunes. Oh, c'est merveilleux, alors que nous, on est sans cesse en train de se plaindre de nos petites misères, et là-bas, ils ont des...
Qu'est-ce que vous avez vu au Cambodge? Vous avez vu des traces de la période des Khmers Rouges? Des indices de cette Absolument. Période terrible.
Ben oui, à Phnom Penh, j'ai visité le fameux collège où il y a eu toutes ces horreurs qui ont été faites, et tout est resté exactement dans l'état. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour voir ça, parce que c'est vraiment terrible de penser que tous ces... Ah oui, c'est terrible, terrible. À Phnom Penh, ce lycée, je ne sais plus comment il s'appelle... C'est pareil pour ces pays. Je ne sais pas quoi penser pour l'avenir de ces pays, mais moi, ce qui me frappe toujours, c'est le sourire de ces gens-là. Aussi bien les Cambodgiens que les Vietnamiens que les Africains, je pense qu'il y a des gens qui connaissent, qui savent être heureux avec trois fois rien, alors que nous avons tout et nous grognons tout le temps.
Oui, mais enfin, on pourrait vous dire que ce sont des pays où la population est très jeune et que quand on est jeune, on a plutôt tendance à être plus optimiste que quand on prend de l'âge. Oui, et est-ce que c'est ça qui joue?
Oui, peut-être. Oui, peut-être, effectivement. Nous, oui, la jeunesse est peut-être effectivement tournée vers l'avenir, et heureusement, et qu'il y a ce sourire, il existe parce qu'ils sont jeunes. Mais j'ai quand même trouvé aussi des personnes âgées, et surtout en Afrique, là, les mamans de jour, là, toutes ces mamans qui s'occupent des enfants, des petits orphelins, c'est pas des jeunettes, c'est pas des femmes toutes jeunes, mais elles sont...
Oui, mais elles ont la sagesse des aînés aussi. Oui, alors voilà, en Afrique, elle est si importante.
Voilà. Hein.
L'Afrique, c'est un pays où on respecte les cheveux blancs.
Tout à fait.
Christian, vous avez voyagé aussi en Asie, et vous avez eu la même impression?
Non, j'ai voyagé un peu en Asie, mais...
Professionnellement.
Enfin, professionnellement, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai eu peu de contacts en Asie, donc voilà, c'est un pays, c'est une région que je connais assez mal. J'ai travaillé un peu plus... en Iran, en Algérie ou en Pologne. Donc, ce sont des cultures complètement différentes. Mais c'est vrai que je fonde beaucoup d'espoir sur l'Afrique. Qu'il faut espérer qu'un jour, il y ait quand même beaucoup moins de corruption, etc. Oui. Façon à ce qu'un peu plus de richesse puisse se répartir. Parce que bon, je vois quand même là, depuis une dizaine d'années, il y a quand même des évolutions. Maintenant, la sécurité sociale au Togo est devenue obligatoire. Tous les salariés, ça ne l'était pas avant. Donc, ça me coûte cher à l'association, mais voilà, au moins, la retraite aussi existe. Maintenant, quasiment, pour tous les salariés.
Mais les ressources, même si les Africains s'expatrient, les ressources sont là, les ressources intellectuelles sont là. La musique africaine, c'est une musique qui a envahi pratiquement le monde entier maintenant, qui est reconnue. Et il y a aussi des ingénieurs et des scientifiques africains.
Oui, non, mais c'est de toute façon, ils ont. Enfin, la culture africaine est très très riche, hein, où il y a aussi pas mal d'écrivains, donc
des
poètes. J'en ai déjà rencontré, oui. Donc c'est un pays très très riche, très ouvert. La jeunesse est très enthousiaste, hein, quoi. On a rencontré des personnes magnifiques qui aiment leur pays. Donc, ils veulent pas forcément essayer d'aller voir le soi-disant Eldorado des pays occidentaux. Ouais. Ça, j'aimais bien en garde parce que, voilà, ils s'imaginent, avec la différence de salaire, hein, le coût de la vie entre le Togo et la France est de 20. Donc, évidemment...
L'écart
du coût de la vie, oui. Donc, évidemment, quand ils ont un peu de notion de ce que peut représenter un salaire en France, même d'ouvrier, ils se disent avec ça, j'ai une véritable fortune, mais pas du tout. Les Togolais qui travaillent en France, enfin, c'est assez difficile pour eux de pouvoir aider leur famille comme ils l'espéraient au point de départ quand ils sont venus en France.
Et malheureusement, on a pris l'exemple du Togo, malheureusement, c'est... bien qu'il y ait peut-être moins de tendance à vouloir s'expatrier que dans un pays comme l'Algérie, par exemple, chez les jeunes. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelques années, il y avait autant de médecins togolais dans la région parisienne qu'il y en avait au Togo. Alors ça, c'est quand même un problème. Mais effectivement, je pense que le désespoir qui pousse les jeunes à dire « bon, ben, je vais aller ailleurs parce que ça sera forcément mieux qu'ici » est peut-être moins aigu que dans d'autres pays, en particulier dans des pays comme le pays du Maghreb et en particulier en Algérie. C'est l'impression que j'ai. Quand même, tout ça vous occupe beaucoup. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose que ces bonnes actions et ces voyages qui vous permettent d'aller sur le terrain pour voir un petit peu comment avancent vos protégés?
Ben oui, on se consacre aussi à nos petits-enfants. Moi, j'en ai quand même 9. Bon. Christian en a 5. Non, 6. On a 15, non, c'est ça, combien on a?
6,
oui,
ça 15, fait 15.
On a 15 petits-enfants à nous deux, donc on partage notre temps avec eux. On leur offre des vacances, on les emmène au spectacle, en vacances. Enfin bon, on s'occupe de nos petits-enfants quand même, pour soulager un peu les parents. Oui. Puis on s'occupe aussi de nos vieux papas. Moi, j'ai un vieux papa de 98 ans, et Christian en a un vieux papa de 91 ans. Donc on s'occupe aussi de nos vieux parents.
Oui, mais alors là, moi, je reviens à ma question. Où est-ce que vous trouvez le temps pour ça?
Voilà, justement, nous venons de passer quelques jours à Saintes, en Charente-Maritime, pour nous occuper de mon papa. Et puis, on s'est arrêté à Périgueux pour visiter le Périgord et passer un peu de temps avec la famille du Périgord. Et puis ensuite, demain, vendredi, nous partons à Lille pour aller nous occuper de l'autre vieux papa.
De l'autre partie de la famille. Bon, très bien. Moi, je crois que vous avez une vie certainement bien remplie. Vous arrivez quand même à... Alors, vous écoutez de la musique, puisque vous êtes mélomanes tous les deux. Mais vous arrivez à lire quand même. Vous arrivez
beaucoup. Oui, nous lisons beaucoup. Et puis, nous avons aussi la chance à Lyon d'avoir un théâtre qui s'appelle le TNP, où on a des spectacles magnifiques. Donc, on a l'opéra, on y va assez souvent. Et je suis aussi bénévole dans une association musicale qui s'appelle les Concerts de l'Hôtel Dieu, où là, je suis plus tout à fait bénévole, mais je fais partie du conseil d'administration. Donc là aussi, c'est la musique. Et la musique qui souffre en ce moment, puisque avec tout ce qu'on vient de vivre actuellement, dernièrement, on cherche des solutions pour pouvoir tenir le coup, la tête hors
ralenti,
de l'eau.
Presque figé, mais là, vous avez permis une bonne transition en parlant des circonstances actuelles. Comment vivez-vous ça? Est-ce que vous pensez que les choses vont se remettre en place tout naturellement, tranquillement, ou bien par la vertu d'un vaccin merveilleux, qu'il soit russe ou qu'il soit américain ou qu'il soit français ou britannique? Ou bien est-ce qu'on s'enfonce, là, on va s'enfoncer dans une période d'incertitude encore, et avec toutes les séquelles économiques qu'on nous annonce? Vous restez optimiste?
Ah oui, moi je suis plutôt optimiste, je pense qu'on s'en sortira, mais il faudra peut-être que beaucoup de gens fassent des efforts, et puis soient plus raisonnables, parce qu'on voit bien des choses qui sont pas... On voit bien que des tas de gens ont oublié pendant ces deux mois de vacances, juillet et août, ont oublié cette histoire de coronavirus, mais il va falloir en septembre revoir un peu, se remettre un petit peu à se battre encore contre ce virus qui risque d'être... On ne sait pas encore, moi c'est la première fois que je vis ça évidemment, comme beaucoup, mais je reste tout de même optimiste, parce que je pense qu'on va se battre et on va gagner, j'espère.
Oui, mais alors si vous dites aux gens, ben, on va recommencer à vivre normalement, les gens vous disent non, c'est pas possible, il faut absolument éviter un retour, une deuxième vague, ce qu'on appelle cette deuxième vague qu'on nous annonce tous les jours. Et puis, donc le résultat de ça, ça va être un ralentissement terrible de l'activité dans tous les secteurs.
Moi, je pense aussi effectivement que ce qui vient de se passer, cette grande crise, va peut-être faire réfléchir des tas de personnes sur la façon de vivre désormais. On va peut-être vivre différemment, et peut-être tant mieux, parce qu'on a vécu d'une façon un petit peu facile. Et là, on est en train de s'apercevoir que... Ben, par exemple, faire travailler tous les agriculteurs de la région lyonnaise, ben, on l'a fait pendant le Covid. On a fait travailler tous ces gens-là autour de nous. On allait chercher leurs légumes et leurs fruits. On va peut-être modifier certaines attitudes. Par exemple, nous avons, nous, décidé de ne plus jamais mettre les pieds dans une grande surface, de ne faire travailler les commerçants du quartier, et puis les agriculteurs qui vendent leurs produits. Ça nous a vraiment ouvert les yeux. On ne s'était pas posé de questions jusqu'à maintenant.
Oui, mais alors là, on va revenir, c'est la régression, là, on va revenir à l'âge de pierre, au char à bœuf. Christian, c'est comme ça que vous voyez les choses dans l'avenir et surtout si on met ça en perspective avec ce qui est en train de se passer avec le climat, où de toute évidence, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui risque d'être très grave pour l'avenir, assez proche.
Alors, j'ai travaillé juste un peu pour le climat. J'avais travaillé en recherche pour éviter justement des rejets de CO2. Hein. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais j'étais ingénieur en sidérurgie en recherche et développement. Et donc, il y avait des projets justement pour être capable de faire de l'acier sans émissions de CO2, etc. Mais la crise de 2008 avait complètement stoppé les quotas de CO2 au niveau au monde. Donc voilà, c'était tombé. Peut-être qu'avec cette crise de coronavirus, ça va revenir un peu sur le terrain, parce que c'est aussi un espoir économique. Ça peut faire, ça peut donner pas mal de travail, ça peut être une activité. Mais moi, je suis assez optimiste. On ne vivra pas comme avant, on vivra différemment. Donc là, on a été surpris par la crise, par le coronavirus. Donc ça fait un arrêt brutal de l'économie. Mais en fait, je pense qu'il y aura d'autres manières de travailler. Je pense par exemple au télétravail, etc. Beaucoup de professions permettent de pouvoir travailler en télétravail. Enfin, dans ma profession, j'aurais pu facilement passer trois quarts de mon temps à travailler chez moi. Il n'y avait aucune raison d'aller forcément tous les matins au bureau, etc. Donc, on parlait un peu de l'écologie, mais on fera un peu moins de transport aussi, donc un peu moins de rejet de CO2, etc. Donc, je pense qu'en fait, on va changer notre mode de vie, mais pas forcément pour revenir à l'âge de pierre. Oui. Pour peut-être trouver un autre mode de fonctionnement. Et on va peut-être un peu changer ça. Enfin, c'est toujours l'espoir que j'ai.
J'espère que le ciel vous entend, s'il y en a un. Parce que moi, j'ai un petit peu peur que pour conduire les gens à abandonner leurs grosses voitures et adopter un nouveau style de vie, ça soit difficile. En tout cas, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais il reste que j'ai été très content d'avoir votre témoignage. Deux retraités actifs, deux touristes dans le Périgord, même s'ils vivent à Lyon, de gens curieux, de gens intelligents et qui réfléchissent à ce qu'ils voient. Merci beaucoup, Luce, merci beaucoup, Christian. Et
merci
bonne
à vous.
Continuation à la fois de vos voyages et puis de votre action sociale.
Merci.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.